à voix nue. Cette semaine, Raphaël Rirol rencontre Françoise Mouly. Ce soir, de Raw Books à Raw, le magazine fondé avec Art Spiegelman.
Bonsoir Françoise Mouly.
Bonsoir Raphaël.
Nous sommes ce soir encore chez vous. Je rappelle que nous avons commencé cette conversation hier soir, que vous êtes directrice artistique du célèbre magazine américain The New Yorker et que nous sommes chez vous à Paris, dans le 10e arrondissement, où vous avez un appartement dans lequel vous venez régulièrement. On s'est arrêté hier au moment où vous arriviez dans un New York complètement délabré par rapport à ce qu'il est aujourd'hui et pas si fascinant que ça pour une jeune Européenne qui pensait découvrir le Nouveau Monde et qui était une jeune Européenne, vous l'avez dit hier, qui avait arrêté des études d'architecture mais qui n'était pas plus versée dans le dessin que cela. Je sais que vous avez fait plein de métiers pour gagner votre vie parce que vous étiez arrivé avec très peu d'argent de poche, que vous avez vendu des cigarettes, des magazines, etc. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans cet univers du dessin qui n'était pas le vôtre? Qu'est-ce qui a fait ça? Est-ce que c'était un hasard complet?
Oui et non, parce que ce qui m'intéressait dans New York, j'aimais bien d'ailleurs le fait que ce soit aussi chaotique, parce que c'était un tissu de possibilités et tout était ouvert. Et comme j'étais à un moment dans ma vie où j'étais pas certaine de vouloir poursuivre dans cette direction d'architecture, vu que l'aboutissement me paraissait bouché, toutes les autres possibilités étaient égales. Alors j'avais rencontré un milieu d'artistes qui faisaient des films indépendants, autonomes, à Anthology Film Archives. Et eux m'avaient dit, et je leur avais demandé d'ailleurs, j'avais des problèmes de langue, parce que je m'étais débrouillée correctement quand j'étais en Angleterre, je pouvais me faire comprendre et je comprenais ce que disaient les gens. Mais alors à New York, leur accent me dépassait. Et ils étaient très gentils d'ailleurs, les New-Yorkais sont toujours très ouverts, je les ai toujours trouvés très ouverts aux étrangers parce qu'ils sont eux-mêmes étrangers, ils ont tous des accents pas possibles et imaginables, mais c'était l'idée que j'avais, ayant grandi avec la bande dessinée comme n'importe quel Français ou Française dans les années 70, j'avais grandi avec Harakiri, Charlie Hebdo, Pilote, c'était mon magazine quand j'étais petite. Je lui ai dit, je vais trouver des BD parce que c'est le langage tel qu'il est parlé plutôt que le langage écrit et ça donne le vernaculaire, ça donne une idée de la langue vivante. Donc j'avais été chez un marchand de journaux pour acheter l'équivalent d'Actuel qu'il y avait à l'époque ou de Fluide Glacial. Et il n'y avait pas de BD chez les marchands de journaux. J'étais
pas
surprise.
Du tout.
Non, rien. Alors, j'ai demandé à ses amis artistes. Il n'y avait pas de comics. J'ai demandé à ses amis artistes. Mais où est-ce que ça se trouve, la BD, dans votre pays? Ils me disent, ah, ça n'existe pas, sauf... Ah, tiens, si ça t'intéresse, la BD. Un ami qui était... Enfin, une connaissance, Ken Jacobs, qui était un metteur en scène indépendant, m'a dit, voilà un magazine qui s'appelle Arcade. Et d'ailleurs, je connais, je peux te présenter, si tu veux, si tu aimes ça, la personne qui a fait Arcade.
On dirait arcade en français, je dis juste arcade, pour les gens qui sont comme vous d'accord. Il y a un certain nombre d'années.
Alors Arcade, c'était une compilation de la bande dessinée underground des années 70, justement, faite par Art Spiegelman et par Bill Griffiths, qui à l'époque, quand ils ont commencé, habitaient tous deux à San Francisco. Et Art Spiegelman avait quitté San Francisco après y avoir passé 7 ans et était revenu dans la ville où il avait grandi, qui était New York, et venait d'arriver à New York. Et moi, j'avais bien aimé Arcade parce qu'il y avait exactement le genre de bande dessinée que j'aurais pu lire en France. Et j'avais surtout lu une bande dessinée qui m'a énormément marquée, qui s'appelait « Prisonnier sur la planète Enfer » de Spiegelman, où il parlait du fait que sa mère s'était suicidée. Sa mère qui avait vécu les atrocités de la Shoah, toute sa famille avait été décimée pendant la Deuxième Guerre mondiale, avaient eu ce fils Art qui était né en Suède. Après, ils avaient immigré aux États-Unis, mais elle se sentait isolée, délaissée. Et là, le fils parlait du jour où il était rentré chez lui un peu plus tard qu'il ne l'avait prévu et que les voisins, la police, les urgences étaient là parce que sa mère s'était suicidée. Les accusations qu'il menait contre sa mère en disant « mais maman, tu m'as tué », le pouvoir d'une bande dessinée qui parlait de quelque chose d'aussi personnel, d'aussi intime, d'aussi émouvant, d'aussi compliqué, d'aussi contradictoire, parce que bien sûr il parlait de sa sentiment de culpabilité, et c'est de la faute d'Hitler, c'est de ma faute à moi, c'est de la faute de mon père, c'est de la faute des voisins, voici ce que dit ce psychiatre. Enfin, il y avait tout un tas d'éléments qui, certainement dans la culture où moi j'ai grandi, sont pas des choses dont on va parler dans la bande dessinée. C'était pas le médium à approprier, peut-être dans un journal intime. Mais...
C'était même à l'époque pas un matériau dont on parlait, c'était tout à fait avant tout ce qu'on a appelé après l'autofiction, etc. C'était quelque chose qui était même pas tellement présent dans la littérature.
C'était un choc intellectuel, un choc émotionnel. Comme le sujet lui-même n'avait pas de réponse, parce que, en fait, l'histoire de 4 pages que Art avait fait n'était pas tellement pour amener des réponses ou raconter quelque chose, mais pour éliciter autant de questions qu'il en avait lui en tête pour un chapitre qui ne pouvait pas se fermer, qui continuait à le hanter dans sa vie. J'ai dit à mes amis, absolument, j'aimerais rencontrer cette personne. Il est vraiment fascinant. Et donc,
je fais juste, excusez-moi, oui. Françoise Moulier, je fais juste une toute petite parenthèse parce qu'on ne l'a pas dit. Donc, Art Spiegelman est l'auteur, est un dessinateur extrêmement illustre, qui est le seul dessinateur qui a été récompensé par le Pulitzer, si je ne m'abuse. Et pour Maus, qui est un de ses livres seulement, il en a écrit beaucoup d'autres. Voilà, je referme la parenthèse.
Mais il n'était pas ça à l'époque. À l'époque, il n'était pas ça. Ce que j'ai découvert, c'est quelqu'un qui, par la suite, bien sûr, a fait Maus. Mais j'ai découvert quelqu'un qui a été passionné du médium qu'il avait choisi, qui était la bande dessinée. Qui pour lui représentait, il lisait un magazine qui s'appelait MAD, M-A-D. Ah, et il disait pour lui, MAD, c'était Mom and Dad. C'est-à-dire qu'il avait grandi avec 2 parents qui avaient échappé à la Shoah, l'un et l'autre, dont pratiquement aucune autre famille, parce que tout le monde avait été tué. Il restait un oncle, un frère à sa mère, et c'est pour ça que de la Suède, où ils étaient réfugiés, ils étaient venus aux États-Unis. Donc il était dans un milieu fermé, et ses parents étaient très isolés du reste de leur quartier de Queens, parce que en fait, ils n'avaient comme groupe social que d'autres rescapés. Ce qui leur était arrivé les isolait de n'importe quel autre environnement après, parce qu'ils avaient du mal à partager ça, même avec son propre frère. La mère de Art avait du mal à se sentir à l'aise, parce que la femme de son frère lui avait dit « Ah ben oui, nous aussi, on a beaucoup... » qui avait vécu la guerre aux États-Unis, donc de la même famille juive, mais qui avait été venue en 1939. Elle dit « Oui, nous, on a beaucoup souffert aussi, parce qu'on n'arrivait pas à obtenir des bas en nylon. » Donc il y avait une espèce d'incompréhension, puis les gens ne pouvaient pas essayer de comprendre, c'était tellement massif. Et il y avait très peu d'informations. Après la Deuxième Guerre mondiale, et même à l'époque où Art se posait des questions, quand il avait grandi, il n'y avait rien dans la culture populaire. Il n'y avait pas de films, il n'y avait pas de romans. Il y avait une espèce d'interdit qui était celui d'Adorno. On ne peut pas faire de poésie après. Et ça avait donné une espèce de tabou. Ça avait créé un espèce de tabou pour parler de ce sujet. Ce qui laissait... Art, le fils de Anja et de Vladek, ses parents, isolé, parce que pour ses parents, il était le petit américain, alors ils se parlaient polonais entre eux pour que leur fils ne les comprenne pas. Ils n'avaient pas appris ce langage à leur fils, mais Art avait un polonais passif, il comprenait un peu le discours intime de ses parents. Il avait un père qui se réveillait toutes les nuits en hurlant avec des cauchemars. Il avait une mère qui était déprimée, qui a fini par se suicider. Et pour lui, l'échappatoire, la culture américaine, c'était MAD, c'était Mom and Dad, c'était les bandes dessinées qui racontaient, parce qu'ils faisaient des parodies des films, des livres, des émissions de télé, de tout ce qui se passait, et qui décodaient d'une certaine façon la culture américaine. Ça a été un guide de la culture américaine. Alors, il est devenu plus américain que les Américains, en fait, parce qu'il a grandi avec... il a compris à quel point l'humour touchait toujours à la vérité. Ce qui est drôle, c'est quand on dit des choses qui, jusque-là, étaient cachées, enfin, quand on perce l'hypocrisie. Et pour moi, il m'a donné... Parce que, bon, je l'ai rencontré, je suis tombée amoureuse de lui et de son discours et de l'univers et de cet esprit. Alors j'ai rencontré quelque chose que j'avais jamais jusqu'ici découvert en une seule personne. J'avais rencontré des gens très intelligents, très analytiques, et j'avais rencontré des gens drôles, qui étaient farfelus, mais j'avais jamais rencontré quelqu'un qui soit aussi peu prétentieux et aussi rigoureux dans son analyse, etc., mais qui fasse une analyse justement de la culture populaire. Hein, c'est-à-dire qui communique, qui fasse rire, qui soit drôle, qui parle de choses qui soient émotionnellement véridiques pour lui, et qui ne se cache pas derrière des études ou un discours, un jargon qu'on ne comprenne pas. Et chaque fois que je posais des questions, le fait que je parlais pas bien anglais, que je n'y connaissais rien, je connais aucun des référents dont se moquait Matt, m'expliquait tout. Mais sans aucun problème, plutôt que de dire « Ah ben, c'est trop compliqué, t'y comprendrais
parce
rien,
etc. » Parce qu'il peut être amoureux aussi, c'est ça.
C'est ça aussi, mais il y avait aussi un côté de vouloir partager, de vouloir partager son enthousiasme, parce que lui voyait des choses qui l'enthousiasmaient et que personne d'autre ne recevait avec le même enthousiasme. Donc, il me lisait des vieilles BD de George Herriman, hein, dont l'écriture est très poétique, avec énormément de jeux de mots qui mélangent le créole et le yiddish et l'anglais et tout un tas d'autres langues. Enfin, c'est très complexe. Et c'est très dur à expliquer, mais ça ne le déphasait pas du tout. Jamais je ne recevais de « Ah ben non, on ne peut pas expliquer, ou c'est trop compliqué pour toi, ou tu ne vas pas suivre. » Et ça a été non seulement le coup de foudre, mais ça a été un apprentissage extraordinaire de tout ce domaine, justement, où il y avait des choses à découvrir qui étaient accessibles à tous.
Et alors, plusieurs années après, enfin quelques années après, vous avez créé ce magazine célèbre qui s'appelait Raw. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, et dont la première parution était en 80, je crois.
Oui, en 1980.
Qu'est-ce que c'était Raw?
Plus qu'autre chose, Raw, c'était le résultat justement de ce que j'avais vécu quand j'ai rencontré Art. À l'époque, il était en train de faire une compilation des bandes dessinées qu'il avait faites, qui s'appelait Breakdance, et il faisait des séparations de couleurs, il faisait de la mise en page, et je me suis rendu compte que tout ce que j'avais appris dans les arts graphiques pour l'architecture, de gratter, de faire des maquettes, etc., se traduisait très directement dans le dessin, dans la mise en page, dans les séparations de couleurs, justement. Et j'ai toujours aimé faire des choses avec mes mains, et là je trouvais un débouché à la question que je m'étais posée quand j'allais être architecte, qui était que les intentions, les projets sont excitants, mais les résultats n'arrivent jamais. On ne va jamais pouvoir construire cette école de rêve ou cette maison, tandis qu'avec les arts graphiques, on peut aller de la conception à la réalisation en quelques mois. Et à la fin, on a
un objet.
En main un objet imprimé à exemplaires multiples. Alors ça aussi, c'était très excitant pour moi parce que j'ai suivi avec art tout le processus de faire ce livre en 1978 de Breakdance. J'étais sur presse avec cette grosse presse qui tirait des feuilles tchac, 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 et la reliure, etc. Et d'avoir des exemplaires multiples. Alors, il y avait à l'époque une librairie qui s'appelait Printed Matter, où ils faisaient des artist books. Mais les artist books, c'était des éditions limitées, 10 exemplaires, des trucs papier. J'aimais ça aussi, mais j'aimais le mariage, justement, de la reproduction mécanique à grande échelle. Et j'en parle avec passion parce que j'aime toujours ça. Une des choses qui m'excite au New Yorker, c'est d'imprimer une couverture à plus d'un million d'exemplaires et que ça puisse quand même avoir des qualités artistiques. Quand j'étais à New York, j'ai pris un loft presque tout de suite, qui est d'ailleurs l'endroit où nous habitons toujours. Et au bout d'un an ou deux, pour payer le loyer, mon propriétaire m'avait suggéré que je prenne une roommate. Et il m'a dit, bah, tiens, je connais une jeune fille. Elle non plus, elle ne veut pas de roommate, vous allez très bien vous entendre. Et elle était très bien comme roommate, Stéphanie, parce qu'elle était cuisinière sur un bateau, parce qu'elle adorait les bateaux, mais pas n'importe quel bateau, elle adorait les remorqueurs. Et elle voulait travailler sur un remorqueur et ils n'admettaient pas les femmes, il n'y avait eu aucune femme, donc elle était la première femme cuisinière sur un remorqueur. Et les remorqueurs, c'est tout petits bateaux qui ont surtout un moteur très puissant, mais pratiquement rien de coque. Donc Stéphanie, qui était cuisinière sur un paquebot, était aussi peintre. Hein, et elle faisait, donc elle partageait mon loft à Soho, et elle avait des diapos de ses peintures. Hein, son père était photographe. Hein, elle voulait être artiste, elle a fait une école d'art. Hein, et je lui posais toujours la question, je dis, écoute, j'essaie pas de t'insulter, etc. C'est une question honnête. Hein. Je regarde tes tableaux, mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu as peint là? C'est pas clair pour moi. Et elle me dit, oh, pas de problème, je vais t'expliquer. Alors, il y a un tel qui a peint des trucs abstraits, et moi, j'étais une élève de Kenneth Nolan, et lui, il a fait des cercles concentriques. Alors après, il y a un tel qui a fait des carrés, ce truc, machin. Et c'était parti pour un exposé de 20 minutes. Alors, c'était une réponse à la réponse de la réponse de qui avait fait ceci. Tandis que quand je posais ce genre de questions à art, la réponse était dans l'œuvre elle-même. Elle était compréhensible. Mmh. Et d'ailleurs, Chris Ware, qui est un artiste que nous avons publié dans Raw et après, et qui est maintenant un des plus éminents protagonistes de la bande dessinée aux États-Unis, l'a très bien dit. Il dit, quand je vais au musée et que je regarde une peinture et que je ne la comprends pas et que ça ne me parle pas, je me dis, je suis un andouille. Tandis quand je lis une bande dessinée, si je ne comprends pas la bande dessinée, je me dis, ben, ce dessinateur, c'est un andouille. Et ça, c'était ce compact que fait le dessinateur, parce qu'il va publier, parce qu'il va imprimer, parce que ça ne va pas être un objet unique, c'est pas dans le monde de l'art où, j'allais dire, le viewer...
Le spectateur.
Le spectateur doit se mettre à la hauteur de l'artiste, rentrer dans cette transe religieuse où opère l'artiste, mais qu'il y a un devoir de communication. Il faut que ce soit lisible. Si on va le publier, il faut que ce soit lisible. C'est pas la... J'ai la même chose avec les couvertures du New Yorker. C'est ça où que d'un côté il y ait cette responsabilité assumée de la part de l'auteur qu'il ou elle allait faire quelque chose de lisible et que le lecteur pouvait en toute confiance passer du temps avec parce qu'il allait en tirer quelque chose, et de l'autre qu'on pouvait faire des choses aussi élaborées qu'en littérature ou dans une œuvre d'art, c'était ça, Raw. C'était montrer les possibilités de la bande dessinée, enfin de ce médium qui alliait les mots et les images, telle que je l'avais découverte, avec tout ce que Art m'avait montré. Alors et c'est moi qui voulais le publier en publication, parce que justement, j'avais adoré ce truc d'imprimer, de faire un objet, parce que c'est ça qui répondait à ce manque que j'avais eu, une création d'idées, ça ne me suffisait pas, je voulais un truc que je pouvais tenir en main, qui avait une qualité tactile, et puis surtout qui pouvait être imprimé, parce que c'est un exemplaire multiple.
Donc vous avez acheté une presse,
J'ai acheté une presse, alors c'était bien sûr ridicule, parce que bon, j'avais pas besoin, il y avait tout un tas d'autres gens qui avaient des presses, mais je crois que ça répondait à cette attente, justement, la frustration de l'architecte en puissance. C'est comme si j'avais pu m'acheter tous les corps de métier pour construire une maison et donner aboutissement à ça. Le fait que c'était l'époque des petites multilices et des petites presses. Bon, mon père avait une photocopieuse avec des rouleaux, etc., dans son bureau médical, mais c'était très rare. Enfin, c'était de pouvoir reproduire des trucs, c'était pas donné à tout le monde. Mais l'idée de pouvoir justement dessiner sur une plaque ou faire les négatifs, j'avais aussi une caméra, j'avais de quoi développer les plaques en métal, puis j'adorais l'odeur de l'encre. J'aimais bien aussi la sérigraphie et d'autres façons de reproduire, mais ce que j'aimais bien dans la presse, c'était tchic, tchic, tchic,
tchic. Vous, en fait, Françoise Mouly, vous étiez un artisan, une artisan, je ne sais pas comment dire.
Oui.
En fait, finalement,
oui.
C'était ça, c'était l'artisanat qui vous...
Et d'ailleurs, mon père n'avait pas tort, j'aurais bien aimé la chirurgie parce que c'est de l'artisanat aussi. J'aime bien. Je suis née à une époque, justement, où beaucoup de choses étaient très abstraites et on se détachait on avait un certain mépris pour le travail manuel. Et c'est quelque chose qui, instinctivement, j'ai passé toute ma vie à chanter les louanges du travail manuel, parce que c'est en faisant qu'on trouve la création elle-même. C'est pas fait en s'isolant dans une tour d'ivoire et en cogitant quelque chose. Mais ce qu'il y a de merveilleux dans le dessin, ce qu'il y a de merveilleux dans le graphisme, dans la mise en page, dans la sculpture, c'est le vis-à-vis qu'on a avec la matière première. Alors, le crayon sur le papier, c'est par exemple quelque chose où il y a un va-et-vient. Quand on fait quelque chose avec ses mains, ça passe du cerveau au bras ou à la main, au papier, et après ça revient par l'œil, et c'est un cercle où on se trouve être impliqué dans son dessin et transformé par son dessin, et certainement avec l'impression. Il y a aussi le côté de la communication avec briser cette impasse que je voyais tout autour de moi dans les galeries de Sceaux, avec l'art qui, en fait, a un seul but, hein, c'est d'acquérir une valeur commerciale pour la personne riche qui va s'acheter une œuvre d'art qui après va être revendue. Tandis que l'art populaire, hein, en France, on a tendance à avoir à séparer les deux. En fait, on vit de l'art tout autour de nous, n'importe quel objet, n'importe quel livre, pièce de musique, etc., ça a la même valeur, il n'y a pas de valeur inégale. Alors, autant s'intéresser à ce qui va faire partie de la vie des gens plutôt que d'essayer d'isoler quelque chose dans un musée.
Dans ce partage très vaste, l'œuvre d'art, c'est aussi un partage, parce qu'après tout, un tableau qui est exposé et que des gens vont voir, il y a une forme d'échange entre eux.
Mais
la bande dessinée, c'est beaucoup plus, effectivement, c'est beaucoup plus...
C'est plus démocratique. Hein.
Démocratique.
C'est plus démocratique. Et
c'est politique. Ça avait une dimension politique pour vous?
Dans le sens où ce qui m'intéressait dans l'histoire de l'art, par exemple, c'est un moment comme les constructivistes, les Russes, dans les années 20, juste après la Révolution, hein, d'ici un an ou deux, eux, ils s'intéressent à l'art populaire, ils s'intéressent à Goncharova, ils s'intéressent au tissu, au textile, aux habits que portent les paysannes, et ils créent un train où Mayakovsky, par exemple, qui est un des poètes et des peintres et des dessinateurs, etc., les architectes, s'intéresse au fait que les gens ne savent pas lire en Russie, beaucoup de gens, et il raconte sur les fenêtres de l'immeuble de la Pravda, de leur journal, il raconte la guerre qui est en train de se passer en images.
Et vous, et en tous fait, les finalement, c'est votre projet, excitant, votre projet, c'était de rejoindre cette démarche-là avec
Rowe. Exactement, voilà. Exactement.
Et Rowe, c'était combien d'exemplaires?
Oh ben, Rowe, c'était au début entre 3 et 5 000 exemplaires. Et puis, on en a fait quand même pendant 8 à 10 ans. Et à la fin, c'était dans les 15 000, 20 000.
Avec des dessinateurs qui venaient de partout. Et vous essayez de trouver tout le temps de nouveaux talents.
Oui, le parti pris est de publier des gens qui ont été publiés dans plus d'un numéro. Donc, ce n'était pas sans arrêt. C'était un peu des deux. Et de publier des choses anciennes aussi dans Rowe. C'était de faire un magazine qui avait comme point de rencontre l'excellence du discours, mais pas un style précis. Par exemple, en France, et puis après aux États-Unis, il y avait un magazine qui s'appelait Métal Hurlant. Alors, Métal Hurlant, c'était la science-fiction, et ça, c'était le point commun. Et tout, ça pouvait être n'importe quel artiste, mais tout, il fallait que le sujet soit la science-fiction. Et beaucoup de choses, de magazines, de bandes dessinées, etc., ont un parti. Il faut que ce soit de l'humour, il faut que ce soit de l'aventure,
et là,
etc.
C'était transversal, c'est ça?
C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sujet imposé aux artistes, il n'y avait pas de style, c'était pas ni moderne, ni ancien, etc., puisqu'il y avait aussi des vieilles BD, il y avait des gens qui dessinaient comme Yo Swart dans La Ligne Claire, et il y avait aussi comme Jacques Tardy, qui était un autre style de dessin, il y avait Gary Painter, qui était le Ratty Line, qui était peut-être le contraire de La Ligne Claire, parce que c'était une ligne ébréché. C'était pas une question de style esthétique qui était en commun, c'était de l'excellence et chacun avait une voix propre. C'était pas un imitateur de quelqu'un d'autre, avait sa propre voix et son propre discours et son propre sujet.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Raphaël Rérol avec Françoise Mouly. À voix nue, réalisation Luc-Jean Reynaud, prise de son Yann Fressy, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.